Alors, pour notre exploration d'aujourd'hui, on poursuit notre plongée au cœur du premier chapitre d'un texte vraiment fondamental, Le chemin de la grande perfection.
Un texte absolument incontournable.
C'est ça. Et la dernière fois, on avait examiné la manière d'écouter un enseignement, mais en se focalisant sur l'attitude mentale. Du coup, aujourd'hui, notre attention se tourne vers le deuxième aspect de cette démarche, qui est le comportement extérieur lors de la réception du dharma.
Et c'est une transition super logique, en fait. Parce qu'une fois que l'esprit est orienté, il faut que l'attitude globale suive le mouvement, quoi. Le texte de Patrul Rinpoché est extrêmement précis sur ce point. Il divise ce comportement en deux dimensions très claires.
D'accord, lesquels?
D'une part, ce qu'il convient d'éviter à tout prix, et d'autre part, ce qu'il convient d'adopter.
Ok, décortiquons ça. Parce que notre mission pour cette discussion, c'est de nous concentrer exclusivement sur ce premier volet, donc ce qu'il faut éviter. On va passer au crible trois catégories spécifiques pour ceux qui nous écoutent.
Tout à fait.
Les trois défauts du récipient, les six souillures et les cinq mauvaises façons de retenir.
Mais l'idée centrale qui se dégage vraiment de cette introduction, c'est qu'écouter n'est en rien un acte ordinaire ou passif. Ça demande une vraie préparation.
Ouais, intérieur comme extérieur d'ailleurs.
Absolument. Pour que cette écoute puisse réellement porter ses fruits et se transformer en une voie d'évolution personnelle, quoi.
Alors, avant même de parler de mémorisation ou d'analyse complexe, il faut s'intéresser à la nature même de celui qui écoute. Et pour ça, le texte utilise une métaphore fondatrice d'une puissance rare en fait. L'auditeur est comparé à un récipient.
C'est une image très parlante.
Totalement. Et le premier défaut abordé, c'est ce qu'on appelle le récipient retourné. En clair, c'est le fait d'être physiquement présent quelque part, mais avec la conscience auditive qui plane à des kilomètres.
Ouais, le mécanisme psychologique derrière ça est fascinant. C'est une déconnexion totale entre le corps et l'attention.
C'est un peu comme s'asseoir au premier rang d'une conférence passionnante, mais passer toute l'heure à repenser à sa liste de courses ou à un email qu'on a oublié d'envoyer. L'orateur a beau verser le liquide de son savoir, comme le récipient de notre esprit est posé à l'envers, les mots glissent sur les parois.
Exactement. Absolument rien n'entre. Et même si le récipient est dans le bon sens, on se heurte au deuxième défaut.
Ah oui, le récipient percé.
Voilà. La mécanique est un peu différente ici. Le liquide pénètre bien, la personne entend chaque mot, mais elle retient rien. En fait, l'information traverse la conscience sans s'y accrocher. C'est une incapacité totale à assimiler ou à pratiquer l'enseignement sur le long terme.
Ouais, alors ça, on connaît tous ce syndrome à l'ère moderne. C'est le fameux binge-watching.
Ah complètement.
On enchaîne trois épisodes d'un documentaire scientifique ultra pointu tout en scrollant sur son téléphone. Sur l'instant, on se dit « Waouh, on a l'impression d'absorber des concepts brillants ». Mais le lendemain matin, impossible d'en restituer la moindre idée. Tout s'est écoulé par le fond du récipient.
C'est exactement ça.
Mais ce qui me fascine le plus, c'est le troisième défaut. Le récipient contenant du poison.
Ah, ce défaut-là est vraiment critique. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple perte d'information, tu vois, mais carrément d'une corruption de l'information.
C'est-à-dire ?
C'est le fait d'écouter avec une mauvaise attitude mentale. Par exemple, écouter un enseignement uniquement pour briller en société, pour obtenir de la gloire, ou avec un esprit dominé par ce qu'on appelle les cinq poisons dans cette tradition.
Genre l'orgueil, la jalousie, l'ignorance, ce genre de choses.
Tout à fait. Si l'on fait cela, le dharma ne profite pas. Au contraire, il se transforme en son strict opposé.
Ouais, pour bien visualiser, c'est comme acheter un jus de légumes pressé à froid, ultra sain, qui coûte une fortune, et le verser directement dans une vieille bouteille qui contient encore un fond d'eau de Javel.
Ouais, très bonne image.
Le nectar va pas purifier la bouteille, c'est la Javel qui va rendre le nectar mortel, quoi.
Cette analogie illustre parfaitement le mécanisme d'une intention corrompue. C'est d'ailleurs, pour définir l'attitude inverse, l'écoute parfaite, que le sage indien Padampa Sangye a formulé ces mots précis.
Ah oui, je m'en souviens.
Il dit « Écoutez les enseignements comme le cerf écoute une musique. Contemplez-les comme le nomade du Nord tond ses moutons. Méditez-les comme le muet savoure. Pratiquez-les comme le yak affamé broute. Et quand vous en recueillez le fruit, soyez comme un soleil sans nuage. »
Waouh ! L'image du cerf m'a littéralement scotché. Le texte décrit un cerf tellement envoûté par le son d'un instrument à cordes, la vina, qu'il en a la chair de poule et les yeux noyés de larmes.
Ouais, c'est très poétique.
Il est dans une hypnose sensorielle si profonde, en fait, qu'il se rend absolument pas compte qu'un chasseur est juste derrière lui, en train d'armer une flèche empoisonnée. C'est presque tragique, mais ça décrit une attention dénuée de la moindre interférence mentale.
Une attention si totale, si exclusive, que le texte insiste sur un point radical.
Lequel ?
Il faut abandonner toute autre activité en écoutant, même la récitation de prières ou de mantras. L'esprit ne peut pas faire deux choses à la fois avec une pleine profondeur. La responsabilité de cette pureté d'écoute incombe totalement à l'élève d'ailleurs. Le grand Muni, le Bouddha, le déclare clairement.
Qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Il dit « Je vous enseigne les moyens de la délivrance, mais sachez que la délivrance ne dépend, elle, que de vous.
» Ce qui amène une citation de l'inégalé Dakpo qui m'a un peu déstabilisé. Il dit « Pratiquer le dharma autrement que selon le dharma, et le dharma deviendra à son tour la cause de mauvaise renaissance. »
C'est fort, hein ?
J'avoue que j'ai bloqué là-dessus. Comment un enseignement censé libérer l'esprit peut-il causer une mauvaise renaissance ? Le savoir, c'est pas toujours censé être positif ?
C'est une excellente question. Et c'est tout le cœur du récipient empoisonné, en fait. Le texte analyse ce danger en pointant du doigt l'orgueil et la sournoiserie.
L'ego, quoi ?
Exactement. Si on utilise des concepts spirituels puissants pour nourrir son propre ego, pour manipuler autrui ou pour se sentir supérieur, on crée une arrogance spirituelle. Et c'est pire que l'ignorance ordinaire. Les émotions négatives se servent de l'enseignement comme d'une arme, ce qui condamne l'esprit à s'enfermer davantage au lieu de s'ouvrir.
D'accord. Alors voici où cela devient vraiment intéressant. Supposons que notre récipient soit dans le bon sens, sans aucune fuite, et impeccablement nettoyé à l'eau de Javel. Ou plutôt, sans eau de Javel.
C'est mieux sans, oui.
Bref, notre récipient est parfait. Est-ce qu'on est tiré d'affaire pour autant ?
Toujours pas.
Mince !
Patrul Rinpoché introduit ensuite une deuxième dimension, qui est issue du texte appelé « raisonnement explicatif ». Il s'agit des six souillures. Parce que même un récipient parfait peut être contaminé par l'environnement s'il est mal exposé.
D'accord. Alors, la première souillure, c'est l'orgueil et le manque de foi. C'est l'idée de se croire supérieur au maître qui enseigne, de s'accrocher fermement à ses propres qualités mondaines ou intellectuelles.
Ouais, un classique.
On voit ça tous les jours dans le monde professionnel, tu sais. Quelqu'un arrive en réunion, croise les bras et n'écoute pas un traître mot du consultant parce qu'il estime avoir déjà plus d'expérience.
C'est exactement la même dynamique. Sans une forme d'humilité, le canal de transmission reste fermé. Le texte parle de la nécessité de développer la foi, et plus particulièrement la foi irréversible. Il distingue d'ailleurs quatre types de foi, mais c'est cette dernière qui permet de lever le voile de l'orgueil qui masque nos propres fautes et les qualités des autres.
Alors là, je me fais l'avocate du diable une seconde.
Vas-y.
Demander une foi irréversible, est-ce que c'est pas une façon de tuer l'esprit critique et d'imposer une soumission aveugle ?
C'est une confusion hyper fréquente. Mais dans ce contexte, la foi irréversible, c'est pas du tout une croyance aveugle acquise par la force. C'est une confiance basée sur l'expérience, tu vois. Une ouverture d'esprit totale qui accepte que l'on ne sait pas tout.
Donc c'est déposer les armes de son propre ego pour autoriser l'autre à nous apprendre quelque chose de nouveau.
Tout à fait. Et une fois cet orgueil mis de côté, on affronte la deuxième souillure, qui est l'absence d'effort.
Le manque de motivation, en somme.
Plus que cela. L'effort définit vraiment la trajectoire et le niveau final du pratiquant. L'adage profane cité ici est tranchant. Il dit « Le dharma n'est la propriété de personne, il appartient aux plus courageux ».
Et en parlant de courage, l'exemple donné dans le texte m'a glacé le sang, honnêtement.
Ah oui, les vies antérieures du Bouddha ?
Oui. On raconte que pour obtenir un simple quatrain, il se creuse de petites lampes à même le corps, y verse de l'huile, allume 1000 mèches, saute dans un fossé de flammes et s'enfonce 1000 clous de fer dans la chair. Mais c'est une imagerie de torture absolue. Comment est-on censé lire ça sans refermer le livre en courant ?
Je comprends la réaction. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la fonction allégorique de ces récits. L'objectif, c'est pas du tout d'inciter à l'automutilation littérale.
Ah, heureusement.
Ouais. Ces images, elles visent à provoquer un choc cognitif. Elles illustrent l'idée d'une détermination absolue, le fait de chercher la vérité au mépris du froid, de la chaleur, du confort ou même de la préservation de son intégrité physique. C'est un courage qui dit en gros « la compréhension de l'esprit est plus vitale que le confort du corps ».
C'est d'une intensité vertigineuse. Et ça contraste radicalement avec la troisième souillure, qui est beaucoup plus banale et sournoise, la distraction par les sens.
Exactement. Notre relation constante au monde extérieur. Dans ce cadre philosophique, la distraction sensorielle, elle est vue comme la racine de l'hallucination du samsara.
C'est-à-dire ce cycle répétitif de souffrance et d'illusion dans lequel la conscience tourne en rond, prisonnière de l'ignorance.
Voilà, c'est ça.
Et pour expliquer comment nos cinq sens nous piègent dans ce samsara, le texte déploie une série d'analogies animales vraiment incontournables. C'est tragique, mais tellement visuel. Il y a le papillon de nuit qui meurt carbonisé parce que sa conscience visuelle est irrémédiablement attirée par la flamme.
Ouais, et le cerf, on en parlait tout à l'heure, qui se fait abattre parce que son ouïe est complètement hypnotisée par le chant du chasseur.
C'est ça. Le mécanisme d'attraction est implacable, pour chaque sens en fait.
L'abeille, elle, trouve la mort engloutie par une plante carnivore parce que son odorat peut pas résister au parfum sucré.
Le poisson, lui, est arraché à son élément mortellement à cause de son goût obsessionnel pour la saveur de l'appât sur l'hameçon.
Et enfin, l'éléphant. Malgré sa force colossale, il s'enlise et se noie dans la boue, simplement par amour pour la sensation tactile de fraîcheur.
C'est fou quand on y réfléchit. Mais si nos sens extérieurs ne suffisent pas à nous perdre, notre esprit prend le relais avec la quatrième souillure, le vagabondage mental.
Ah ça!
Cette habitude tellement épuisante que nous avons de fuir perpétuellement dans le passé ou le futur.
Et pour souligner l'absurdité de cette fuite, le texte fait appel à la poésie de Gyeltsé Rinpoché. Ces vers dissèquent magistralement nos mécanismes mentaux.
Ouais, le poème est incroyable. Je commence avec la première strophe. Il écrit « Heures et malheurs passés sont comme un dessin sur l'eau. Il n'en reste plus trace. Ne partez pas à leur poursuite. Si malgré tout vous y pensez, dites-vous que prospérité et déclin vont viennent et viennent. Y a-t-il d'autre but que le dharma, Maniwa ?»
Ouais, c'est puissant.
Petite pause d'ailleurs. Ce terme qui revient, Maniwa, qu'est-ce qu'il signifie exactement ?
Alors, Maniwa, ça désigne littéralement une personne qui récite le mantra « Om Mani Padme Hum ». C'est un terme affectueux et très respectueux pour s'adresser à un pratiquant.
D'accord, je vois.
Et dans la strophe suivante, Gyeltsé Rinpoché s'attaque à notre obsession de l'avenir. Il dit « Projets et préparatifs sont des filets jetés dans le lit d'un torrent sec. On est toujours déçu. Réduisez donc désir et aspiration. Si malgré tout vous en avez, songez à l'heure incertaine de la mort. » A-t-on le temps de faire ce qui n'est pas dharma, Maniwa ?
Ouf ! L'image du filet de pêche dans une rivière asséchée, elle est foudroyante. Ça illustre tellement bien l'angoisse de vouloir tout contrôler.
C'est tout à fait ça.
Et il continue sur le présent, d'ailleurs. Les activités quotidiennes sont des travaux faits en rêve. Rejeter à jamais ces efforts qui ne riment à rien. Même la nourriture conforme au dharma, prenez-la sous le sceau du non-attachement. Tout ce qu'on peut faire n'a aucun sens, Maniwa.
Et la conclusion donne vraiment la marche à suivre. Il termine en disant « Entre vos méditations, tant que pensée et apparence ne surgissent pas toutes comme le corps absolu, il est indispensable d'apprendre ainsi à dompter les pensées qui viennent des trois poisons. Pensez-y au moment voulu. Ne laissez pas vagabonder les pensées trompeuses, Maniwa. »
C'est un avertissement retentissant contre notre manie d'échafauder des plans sur la comète. Et pour enfoncer le clou, Patrul Rinpoché raconte l'histoire de l'une célèbre.
Ah oui, cette histoire est géniale.
J'ai adoré ce passage, c'est d'une ironie mordante. C'est l'histoire d'un homme extrêmement pauvre qui trouve, par miracle, une grosse jarre remplie d'orge. Il la suspend à une corde au plafond, se couche juste en dessous pour la protéger, et là, son cerveau commence à turbiner.
La machine à fabriquer du futur s'emballe, quoi.
Exactement. Il se dit « Cette orge, je vais le vendre. Ça va me rapporter gros, je vais devenir riche, je vais pouvoir acheter une maison, prendre une femme. On aura un fils, c'est sûr, mais comment je vais l'appeler ?» Et à cet instant précis, un rayon de lune passe par la fenêtre, il s'écrie « Je l'appellerai lune célèbre. »
Et pendant que son esprit était complètement absorbé par cet empire hypothétique,
un rat, bien réel celui-là, était en train de ronger la corde qui retenait la jarre, la corde cède, la lourde jarre s'écrase sur l'homme et le tue sur le cou. Fin de l'histoire, fin de l'une célèbre.
C'est tragique, bien sûr, mais la démonstration est brillante. Se projeter dans un futur illusoire, bah, ça nous coupe totalement des dangers et des enjeux du présent. Mais attention, si l'on fuit ce vagabondage de façon trop radicale, on peut tomber dans la cinquième souillure, le repliement. C'est-à-dire une concentration beaucoup trop excessive.
Et ça nous amène à une autre métaphore animalière fantastique, l'ours Oudremo qui déterre des marmottes.
Ah ouais, très visuel aussi.
L'ours attrape une première marmotte et la coince sous son bras, puis il envoie une deuxième, il se penche pour l'attraper avec son autre patte, mais en faisant ce mouvement brusque, la première marmotte s'échappe de sous son bras. À vouloir saisir fébrilement chaque petit détail d'un enseignement un par un, on oublie le point précédent et on perd toute la vision d'ensemble.
Cette tension crée un déséquilibre. L'histoire d'Ananda et du moine Shrona illustre l'antidote parfait à ça, d'ailleurs. Shrona n'arrivait pas à méditer. Son esprit basculait constamment entre une hypertension nerveuse et une somnolence totale. Le Bouddha, sachant que Shrona avait été musicien et jouait de la vina, ce fameux luth indien, lui a posé une question. Il lui a demandé « Ton instrument sonnait-il juste quand les cordes étaient tendues à l'extrême ou quand elles pendaient lâchement ?»
Bah, la réponse physique est évidente. Si c'est trop tendu, la corde casse. Si c'est trop lâche, il n'y a pas de son. L'harmonie, elle réside dans la juste tension, quoi.
C'est exactement ce que résume brillamment la yogini Maji Gagné Clapdron. Elle dit « Soyez en même temps à l'aise et concentré. Il y a là un point essentiel pour la vue. »
Superbe citation. Et si, malgré tout cela, on fait face à la sixième souillure, le découragement par exemple, parce qu'un enseignement dure des heures, qu'on a faim, froid ou soif, le texte offre un antidote. La perspective.
C'est-à-dire ?
Il faut se rappeler l'immense rareté de pouvoir entendre de telles sagesses. C'est comparé à la joie inouïe de savourer un festin qu'on ne mangerait qu'une seule fois sur 100 repas.
Ouais, il faut relativiser, quoi.
Résumons notre progression, du coup. Le récipient mental est prêt et les 6 souillures comportementales sont neutralisées. Mais c'est pas terminé, parce qu'il y a une mécanique finale de rétention.
Donc, une fois qu'on a bien écouté sans interférence extérieure ni interne, comment on stocke correctement cette information dans notre mémoire? C'est là qu'entrent en jeu les 5 mauvaises façons de retenir. Patrul Rinpoché décortique ici les pièges cognitifs de l'apprentissage. Le premier piège, c'est de retenir les mots sans le sens.
C'est le fait de s'accrocher à la beauté poétique des phrases sans en comprendre la profondeur, c'est ça, Evan ?
Tout à fait.
Le texte compare ça à un enfant naïf qui cueille de superbes fleurs juste pour leur jolie couleur. C'est esthétiquement plaisant, mais ça n'a aucun pouvoir de transformation intérieure. Pourquoi notre cerveau fait-il ça, tu penses ? Souvent, parce qu'il est beaucoup plus facile de mémoriser une belle citation pour briller dans un dîner que de faire l'effort psychologique d'en appliquer le sens.
C'est tellement vrai. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, le cerveau peut aussi créer la deuxième erreur, retenir le sens sans les mots.
L'opposé, exact.
Voilà. C'est l'arrogance de croire qu'on a saisi le concept et que la terminologie exacte n'est qu'un détail superflu dont on peut se passer.
C'est très parlant. Imaginons un chercheur qui comprend intuitivement un théorème de mécanique des fluides, dans sa tête. Il a l'image mentale parfaite, mais au moment de se lever devant ses étudiants au tableau, s'il n'a pas retenu le vocabulaire mathématique précis, il sera incapable de l'expliquer. Sans les mots justes, la transmission s'effondre totalement.
Exactement, t'es coincé. Le troisième piège, c'est retenir sans comprendre les nuances du texte. Dans cette tradition philosophique, il est vital de savoir différencier le sens expédient du sens absolu, voire du sens caché.
Faisons une pause sur ces termes, parce qu'ils sont assez denses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sens expédient et sens absolu ?
Alors, le sens expédient, c'est une vérité provisoire. C'est adapté par le maître au niveau de compréhension actuelle de l'élève pour l'aider à avancer étape par étape.
Comme des roulettes sur un vélo, en gros.
C'est ça. Le sens absolu, en revanche, pointe directement vers la nature ultime de la réalité. Si on retient un enseignement sans savoir s'il faut le prendre au pied de la lettre ou s'il cache un sens plus profond, on passe totalement à côté du message.
D'accord. Le quatrième piège, lui, est très structurel. C'est retenir dans le désordre. Si on inverse les étapes d'une méthode, on sera incapable de la pratiquer ou de l'enseigner correctement. C'est comme essayer de construire une maison en commençant par le toit.
C'est voué à l'échec. Enfin, la cinquième et dernière erreur, retenir de façon erronée. Comprendre de travers engendre des mauvaises pensées. Au lieu d'élever l'esprit, cela corrompt la compréhension et avilit le dharma lui-même.
Et face à tous ces écueils, le texte donne une dernière ligne de conduite, une sorte de posture d'équilibre mental face à l'apprentissage. Il prévient qu'il ne faut jamais désespérer, ni se braquer face à un enseignement qui semble interminable ou d'une complexité effrayante. Mais à l'inverse, il ne faut jamais mépriser un enseignement très court sous prétexte qu'il paraîtrait basique ou presque enfantin.
Oui, en parcourant tout cela, on réalise à quel point Patrul Rinpoché a magistralement mis en lumière absolument tous les éléments qui peuvent polluer ou altérer la réception du dharma.
C'est un vrai examen clinique de notre esprit. La leçon centrale qui s'en dégage pour notre audience, c'est qu'il ne s'agit pas juste de s'asseoir passivement pour écouter. C'est un appel à veiller activement et en permanence aux conditions de cette réception.
Et c'est précisément ce constat qui conduira naturellement l'auteur, pour la suite de cette étude, à explorer le deuxième aspect. Après avoir listé tout ce qu'il faut fuir, il abordera ce qu'il convient d'adopter.
Mais avant ça, cela soulève une question cruciale à laquelle on peut tous réfléchir.
Je t'écoute.
Si la façon dont nous écoutons est le reflet direct de notre état d'esprit profond, que révélerait sur nous la toute dernière conversation que nous avons eue aujourd'hui ? Était-on un récipient percé, plein de poison, ou parfaitement prêt à recevoir ?
Ouf ! C'est sur cette interrogation que se clôture notre analyse du jour. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette magnifique plongée au cœur du texte.